Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h47 avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy et les drôles de dames pour conclure cet after. Une dizaine de minutes à passer ensemble. Fred Hermel est là, salut Fredo. Et Julien Laurence va nous rejoindre dans quelques instants. Johan Crochet là également, salut Yo.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, il y a le terrain, il s'est passé beaucoup de choses chez vous tous. En Angleterre, c'est terminé. En Espagne, il y avait le multiplex de l'avant-dernière journée. La victoire ce soir en Italie de l'AC Milan sur la Juve. Mais Johan Crochet, l'info, elle vient de tomber. Et c'est le champion d'Italie qui n'a plus d'entraîneur.
Exactement. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. On en avait parlé lundi dans Génération After des drôles de dames. C'était une situation un petit peu tendue et Aurelio De Laurentiis a confirmé ce soir sur la RAI dans l'émission, la fameuse émission Che Tempo Che Fa, qu'il avait libéré Luciano Spalletti de son contrat. Il le remercie. Il dit dans la vie, il faut être généreux. Il nous a abonné. Je le remercie. Je le libère de son contrat et il explique que Spalletti lui a dit que il avait tout donné, que selon lui, un cycle se terminait et qu'il voulait avoir une année sabbatique. Donc, on n'aura pas Luciano Spalletti sur un banc la saison prochaine. Il sera sans doute de retour dans sa Toscane à s'occuper des vignes, comme il aime le faire. Mais le Napoli va se mettre maintenant en quête d'un nouvel entraîneur. On parle beaucoup de Luis Enrique ces dernières heures, qui réclame beaucoup d'argent.
Il vient à Paris, hein, déjà, de Yuan. Donc.
Alors, Luis Enrique, le candidat peut-être le plus abordable financièrement, c'est Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina. Et sachant que le Napoli va sans doute aussi changer très, très probablement de directeur sportif, puisque Giuntoli devrait aller à la Juve. Et donc, mais là, visiblement, c'est à peu près fait. C'est Accardi d'Empoli qui devrait prendre sa suite. Donc, entre un ou deux joueurs qui vont partir, l'entraîneur, le directeur sportif. Bon, j'espère que les supporters napolitains ont bien fêté le Scudetto, parce que il y a pas mal d'incertitudes pour le début de la saison prochaine.
C'est vrai que ça semble, on parlait de Tudor tout à l'heure avec l'OM, mais ça semble beaucoup pour capitaliser sur le titre de cette année. Il y a de quoi être un peu inquiet quand le coach du Napoli s'en va, non, le gars.
C'est pareil, Spalletti, il tourne beaucoup, hein, il est un peu comme, il a une plus grande expérience, puis il a fait des mandats quand même plus longs que de fait Tudor, mais c'est pareil, il y avait quoi, une incompréhension entre De Laurentiis et Spalletti, c'est ça, Juan?
Il y a pas que ça. Il y a effectivement De Laurentiis, c'est un président très très dur à vivre au quotidien, vraiment. C'est son club, c'est lui qui met l'argent, donc il décide. Il est volcanique, il est très difficile dans les relations humaines, très froid, très distant. À la moindre chose qui va pas, il peut exploser. Il prolonge le contrat de son entraîneur. Enfin, il lève une option qu'il y avait dans le contrat de son entraîneur sans l'avertir, ce qui fait que l'entraîneur reçoit une notification sur son ordinateur lui disant tiens. Le contrat a été prolongé par votre président, sans même en parler. De Laurentiis n'avait pas appelé Spalletti le soir du titre. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais il y a aussi dans la justification, c'est pas que de la faute de Laurentiis. Hein, mais je pense que Spalletti a assez bien analysé la chose en se disant avec ce que j'ai fait là, comment je vais pouvoir faire mieux la saison prochaine. Et donc c'est aussi juste que si lui il le sente pas vraiment à 100%, qu'il fasse un pas de côté et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre.
Les drôles de dames sont là, on tourne sur les terrains, on revient dans un instant avec toi Johan pour notamment la victoire de l'AC Milan ce soir face à la Juve, mais avec Fred Hermel, cette 37e journée de Liga qui avait lieu ce soir, tous les matchs en même temps, c'était multiplex. Qu'est-ce qu'il faut retenir de principal? Bon, ce qui est acté, c'est que l'Espagnol Barcelone descend, par exemple.
Ce qui est acté, c'est la deuxième équipe à descendre. Elche s'était fait depuis quelques semaines. L'Espagnol, on y reviendra demain, mais qui a souffert un calvaire arbitral sur la pelouse de Valence, parce que l'Espagnol menait 2-1. Enfin, je vous raconterai demain, mais c'est indécent ce qui s'est passé. Franchement,
il s'en passe à Valence en ce moment.
Il se passe plein de choses là-bas, mais c'est vrai que l'Espagnol aurait pu être l'une des six équipes plutôt la septième équipe la semaine prochaine à jouer son maintien. Alors comme l'Espagnol descend, pour la, le, ce qu'on retient de cette journée, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura six équipes, Cadix, Almeria, Valence, Celta, Retafe, Valladolid, pour une place de descente en deuxième division. Je veux dire, ça va être, c'est quand même assez significatif que ce qui est de plus intéressant depuis le début de la saison, c'est la descente en Espagne. Ça dit beaucoup du, la baisse de niveau et d'intérêt de championnat. On va retenir aussi que l'Atlético a assuré la troisième place, donc a assuré sa participation à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite en janvier prochain, que la Real Sociedad a, elle, assuré la quatrième place, donc sa participation à la prochaine Ligue des Champions avec l'Arsenal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça c'est une petite parenthèse personnelle.
Bon,
et Villarreal et Betis joueront l'Europa League. Et vous avez cinq équipes qui vont se battre pour une place de Conference League. Osasuna, Athletic, Girona, Rayo et Séville. Vous imaginez que Séville était, il y a encore quelques semaines, virtuellement en deuxième division, que là, elle joue mercredi une finale de Ligue Europa qui pourrait lui permettre d'aller en Ligue des Champions et joue le week-end prochain la possibilité d'aller en Europe, en Conference League. Il s'est passé des trucs dingues depuis l'arrivée du troisième entraîneur de la saison, José Luis Mendilibar.
Oui, décidément, depuis le départ de Sampaoli, ça va mieux à Séville. Yo, en Serie A, merci Giroud, l'AC Milan qui s'impose 1-0 ce soir sur la pelouse de la Juve. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir dans cette journée? Bon, difficile d'avoir des yeux partout, mais l'AC Milan en Ligue des Champions. Après, ce qu'on retient aussi du week-end, c'est que l'AS Rome ne sera pas en Ligue des Champions. Et ça a une conséquence directe pour notre football, puisque l'OM est donc assuré de disputer les barrages.
C'est une bonne nouvelle pour le foot. C'est une autre conséquence, c'est que si la Roma veut jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est-à-dire battre la semaine mercredi soir.
Parce qu'on a deux clubs qui sont dans la même position. D'ailleurs, ça qui est marrant, Yo, parce que d'habitude on a toujours un club qui dans son championnat a brillé en même temps, mais là c'est pas le cas.
Autant en Coupe d'Europe, Mourinho et la Roma, c'est une histoire d'amour. Autant en championnat, c'est quand même très décevant, je trouve, depuis que le Portugais est arrivé. Alors, on y reviendra demain soir, mais c'est un peu une constante. Il y a quasiment aucun club en Europe, je trouve, qui a réussi à gérer les deux tableaux cette saison. Hormis Manchester City, entre Coupe d'Europe et championnat, vous avez plein d'exemples de clubs qui ont réussi à performer en championnat mais qui sont sortis très tôt en Coupe d'Europe. Je pense au Barça, je pense
l'Atlético
pour l'Espagne.
C'est peut-être encore plus vrai pour Mourinho avec ce style qui est de jeu qui est le sien, qui sur des matchs one shot entre guillemets, sur des matchs de coupe, s'exprime mieux comme ça.
Tout
ce qui d'ailleurs est un indice intéressant pour tous ceux qui veulent le recruter pour une saison complète en championnat.
C'est possible. Sinon à retenir,
après moi je suis pas un grand défenseur de Mourinho, mais l'effectif de la Roma, quand tu regardes les autres effectifs des grands clubs italiens, la Juve, l'Inter, le Milan, le Napoli, bon, c'est pas non plus un effectif taillé pour le top 4.
Si. Désolé Stéphane, mais argument jugé irrecevable par moi-même parce que quand tu regardes la Lazio qui est deuxième, elle a un moins bon effectif que la Roma, clairement en plus.
D'accord.
Donc, elle a une masse salariale clairement en dessous de la Roma aussi. Alors, ça fait partie des exemples. Hein. La Lazio a balancé la Coupe d'Europe et au final, elle a réussi à finir deuxième. Mais non, la Roma se devait de faire mieux en championnat, mais on y reviendra. Et juste dernier renseignement, Milan est donc en Ligue des Champions. On a les quatre clubs en Ligue des Champions. Donc évidemment, le Napoli champion, l'Inter, la Lazio et le Milan. Et le match ce soir, si j'avais dû le résumer en trois points entre la Juve et le Milan, premier point, ça aurait été déchet technique en phase de construction. Point numéro 2, déchet technique en phase de transition. Et point numéro 3, déchet technique en phase de finition.
Sauf de la tête avec Giroud, qui dans ce profil-là quand même, il est éternel. Il est quand même, il recule. Il va toujours très haut. Non, mais c'est intéressant de voir que comme ce profil est rare, il peut toujours être utile, même en équipe de France, même si je pense qu'à un moment donné, il faudra tourner la page.
Il nous reste très peu de temps, mais j'aurais qu'on accueille Julien Laurence. Salut Julien.
Ah. Salut Thibaut, salut
Julien.
À tous.
Et alors, salut. Il y a un petit sourire, il y a un peu de bruit derrière. Où es-tu Julien?
C'est une petite soirée de fin de saison, quelques joueurs de Première Ligue, voilà, c'est très sympa. Il faisait très beau aussi à Londres ce week-end, comme un peu partout j'imagine.
Mais change pas de sujet, la soirée. C'est quelque
chose. Oui, non mais. c'est un club londonien.
Très bien, il y en a 17.
C'est très sympa.
Il y a deux A dans le nom du club.
Il faut être la deuxième place, quoi, c'est ça.
On fait une très bonne saison.
D'accord,
ça, c'est sûr.
D'accord.
Tu vas comme journaliste ou comme mari de...
Non, comme invité surtout, mon Fredo. Je fais un peu de tout ici, tu sais.
Et oui, la saison qui est terminée, la dernière journée de Première Ligue, c'était aujourd'hui. On a très peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir là de cette dernière journée?
On jouait surtout pour ne pas descendre aujourd'hui entre Leeds, Leicester et Everton. Un de ces trois clubs-là allait se maintenir, les deux autres allaient être relégués. Le club qui s'est maintenu, c'est Everton, grâce à un but magnifique d'Abdoulaye Doucouré, bien sûr, qu'on connaît bien en France. Une reprise, une demi-volée, on va dire, qui a donné la victoire donc, à son équipe contre Bournemouth. Ça a été tendu un petit peu jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu à la fin du match. Mais finalement, ça a suffi donc, pour garder Everton une saison de plus, la 70e dans l'élite anglaise, alors que de l'autre côté, Leicester, 6 ans simplement après le titre de champion d'Angleterre, descend donc en Championship avec Leeds, qui donc fait un petit peu yo-yo, puisqu'ils sont restés 3 saisons en Première Ligue. Mais voilà, ils accompagneront donc Southampton, qui est descendu. Et on sait maintenant que le 3e club promu de Championship, c'est Luton et son stade incroyable. Je ne sais pas si Steph a déjà été.
Non,
moi, j'ai vu les images, c'est incroyable. Hein, c'est une maison. Quoi.
10 000 places. Non, mais c'est, voilà, c'est tout sauf un stade de Première Ligue, mais c'est surtout l'entrée, le charme aussi.
La porte, elle est dingue. On a l'impression
d'être. Une des entrées où tu passes par les maisons, effectivement.
Les deux autres promus, Julien, rappelle-les-nous, s'il te plaît.
Donc, Sheffield United et Burnley qui sont donc montés eux directement sans passer par les playoffs.
Il n'y a pas un Saliba ou un Gabriel Jesus que tu pourrais mettre à l'antenne, là, Julien?
Pas là, ça danse un petit peu. Je vois ce que je peux faire pour plus tard, mais là c'est un peu tôt encore.
Peu tôt. Et après plus tard, ce sera trop tard. Merci beaucoup,
trop tard, effectivement.
Julien Laurence. Et vous, Fred,
une petite crochet. Info qui fait très bien vite, plaisir. Fred. C'est le retour de Las Palmas en première division. Donc les Canaries, c'est quand même des îles un peu lointaines qui sont. C'est l'Espagne, mais c'est au large de l'Afrique. Le retour d'une équipe des Canaries en première division, c'est toujours
des
important pour la cohésion nationale.
Canaries qui montent et des Canaries qui risquent de descendre.
Oui, peut-être. Que ça fait des beaux déplacements pour ceux qui suivent le foot espagnol. Merci les gars, on vous retrouve demain 22h pour Génération After spécial Drôle de Dame. Stéphane et Flo, merci les gars, c'était un plaisir.
Avec plaisir.
C'était vite fait, mais vite fait, bien fait, comme on dit, des fois. Merci à Jérôme Thomas, Daniel Torres, Adri au standard et merci surtout à vous d'avoir été là, fidèles comme d'habitude. L'After revient demain 20h. Bonne nuit l'équipe.
RMC, l'After Foot.